radio. Okapi, Okapi. Okapi Service, du lundi au vendredi, de 9h à 11h, heure de Kinshasa, avec Jody Daniel Kachama. Okapi.
Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien au Capi Service. Nous sommes heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour vous servir et bonne fête de l'indépendance à tous les fidèles auditeurs de la fréquence de la paix. Comment préserver les terres arables congolaises? On en parle aujourd'hui dans la première partie de cette émission de la vie au quotidien avec Simplex Malembe, expert en gestion des conflits fonciers. On aura également Maître Eric Vouvou, avocat au barreau du Congo central. Monsieur Simplex Malembe, bonjour. Bien, bienvenue dans cette émission, on vous retrouve dans quelques instants. Et dans la deuxième partie de cette émission, nous allons parler des maladies des volailles. Comment prévenir les maladies des volailles en saison sèche? Vous savez, pendant cette période, il y a des épidémies qui visitent les poulaillers et qui peuvent décimer la volaille. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour préserver les volailles en bonne santé et garder les animaux de votre basse-cour en bonne santé? Eh bien, nous allons en parler dans la deuxième partie de cette émission avec Docteur Teddy Badi, assistant à la faculté de médecine vétérinaire de l'université de Lubumbashi. Tati Mapuku assure la coordination et la réalisation de cette émission. Debs Vita à la mise en onde au micro. Jody Daniel Kachama, bienvenue à tous. Excellente condition d'écoute pour participer à cette émission. Le standard est déjà ouvert, composez les 099 706 99 41. Excellente condition d'écoute de ce magazine de la vie au quotidien.
Radio Capi.
Célébrons ensemble le 64e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. À partir du 30 juin, Radio Capi vous propose une semaine de couverture exceptionnelle pour commémorer cet événement historique. Au menu, des reportages captivants, des témoignages exclusifs de ceux qui ont vécu ces moments historiques.
Car cette indépendance du Congo, si elle est proclamée aujourd'hui dans l'entente avec la Belgique.
Du 30 juin au 6 juillet, suivez ce programme spécial sur nos ondes et nos plateformes en ligne. Radio Capi donne la parole à ceux qui ont façonné le passé de la RDC et à ceux qui continuent de construire son avenir. Vive l'indépendance de la RDC.
Encore une fois, bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien, au Capi Service. Nous parlons aujourd'hui de la préservation des terres arables, les terres fertiles congolaises. Eh bien, vous savez, la RDC compte environ 120 millions de terres arables, dont à peine 10% sont mises en valeur. Près de 50% de ces terres fertiles et propices à l'agro-industrie seraient déjà cédées aux étrangers qui achètent de plus en plus de vastes étendues des terres en Afrique. Révélation faite par l'ancien président américain Al Gore dans son livre intitulé « Le futur ». Les multinationales achètent ces terres afin de produire du blé et d'autres céréales, non seulement pour leur propre consommation, mais aussi pour les vendre sur les marchés mondiaux. Alors, que faire pour stopper ce vaste bradage de nos terres arables? Eh bien, c'est le thème que nous abordons aujourd'hui avec M. Simplex Malembe, expert en gestion des conflits fonciers. On aura également Maître Eric Vouvou, avocat au barreau du Congo central. M. Simplex Malembe, bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste, bonjour monsieur, bonjour les auditeurs de Radio Okapi.
Bienvenue dans cette émission. Alors, vous confirmez que près de 50% des terres arables de la République démocratique du Congo seraient déjà vendues, cédées aux étrangers?
Bon, confirmer au sens strict du terme serait trop dire à mon avis, parce que ce qui est vrai, nous ne disposons pas d'une cartographie réelle des terres arables en RDC. Et même les 80 millions et les 120 millions d'hectares dont on parle très souvent, ce sont des chiffres qui ont été avancés par les organisations internationales, la FAO, le FIDA ou d'autres. En tout cas, pas au niveau national. Et au niveau national, nous savons que nous disposons d'un certain nombre d'espaces qui font la convoitise de beaucoup de sociétés transnationales. Mais à dire vrai, vous pouvez passer au niveau du ministère de l'Agriculture, vous pouvez passer au niveau des services attitrés pour nous faire cesser, au ministre des Affaires foncières, nous ne disposons pas d'une cartographie de ces terres-là. Et que donc, affirmer qu'ils sont déjà vendus à tel pourcentage ou à tel pourcentage serait trop risqué à mon avis. Par contre, ce qu'on peut se dire, c'est de dire quand même les grandes superficies dont dispose la RDC sont sous-exploitées. Et c'est à ce titre-là qu'il convient de dire que ces superficies-là font l'objet de convoitises de grandes sociétés multinationales et de l'élite nationale congolaise. C'est comme ça que moi je circonscris la problématique du jour.
Voilà, donc on retient qu'il n'y a pas, on n'a pas une cartographie des notaires arabes. Bon, c'est pour cela il est difficile de se prononcer là-dessus, mais il y a un livre écrit par l'ancien président américain Al Gore a confirmé que près de 50% des terres arabes ont été déjà cédées aux étrangers, aux multinationales qui veulent produire du blé et des céréales, non seulement pour leur propre consommation, mais aussi pour les vendre sur les marchés mondiaux. Alors, vous dites qu'il n'y a pas de cartographie, on retient cela. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour préserver ces terres arables et surtout les exploiter? Parce qu'on les a, on a des terres fertiles, etc. Parfois, on parle des 80 millions, 120 millions. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour les exploiter et les préserver contre ce bradage?
Vous savez, il y a trois questions fondamentales dont il faut tenir compte. La première question, c'est de dire, il faut que nous puissions faire le répertoire, si ça peut se dire à terme simple, c'est-à-dire la cartographie réelle de ces terres-là. Nous, que nous puissions savoir où sont-elles situées réellement. Ça, c'est la première problématique. En RDC, nous ne l'avons pas. En plus qu'il y a une autre difficulté que nous avons, c'est que la plupart de nos lois font ce que nous appelons la superposition, à la limite la juxtaposition des terres, des usages, quoi. Les cadastres miniers, comme c'est celui-là généralement qui fait la référence, les cadastres miniers a aussi accaparé un certain nombre de bassins de production qui sont aujourd'hui enregistrés ou connus comme faisant partie de nos terres arables. Donc si ces terres-là sont déjà prises par les concessionnaires miniers, il serait difficile de les extraire de cette partie de minerais, de cet usage de minerais, pour les mettre sous les usages agricoles. Donc, nous devons identifier les terres arables, harmoniser avec les autres lois, qui gèrent ce qu'il convient d'appeler foncier, c'est-à-dire la loi minière, la loi sur les forêts, la loi sur les hydrocarbures, toutes ces lois-là. Et la loi foncière elle-même, toutes ces lois-là doivent être en harmonie pour qu'on dise, est-ce que nous pouvons réserver ceci pour l'agriculture, nous réservons ceci pour l'élevage, nous réservons ceci pour les minerais, nous réservons ceci pour les générations futures, nous réservons ceci. Ça, c'est une des grandes difficultés que nous avons en RDC. La deuxième grande difficulté que nous avons, c'est l'élite elle-même. Les différents gestionnaires, ceux-là qui ont la responsabilité de sauvegarder le patrimoine foncier de la RDC, ne sont pas toujours les meilleurs. Quand je dis ceux qui sont censés, c'est-à-dire nos chefs coutumiers et les services administratifs qui gèrent le foncier. Et vous savez que notre loi sur le foncier traîne toujours jusqu'au jour, depuis 2011. Jusqu'à ce jour, nous n'avons pas pu finir avec le processus de la loi foncière.
D'accord,
mais monsieur, tout cela doit être coiffé par ce que nous appelons la loi sur l'aménagement du territoire. Bien. Et la loi sur l'aménagement du territoire, c'est elle qui devait précéder toutes ces lois-là. Malheureusement, ce n'est pas le cas en RDC.
Bien,
voilà à peu près les contours et les enjeux autour de notre foncier et de terres arables en RDC.
D'accord, on va accueillir Thomas de Bounia. Bonjour.
Monsieur Marcel. Bonjour, monsieur Jody. Bonjour à l'invité, à tous les auditeurs de la radio.
Quelle est votre question, Thomas?
D'entrée déjà, merci de nous avoir associés dans cette émission. Nous pensons que les terres arables, nous en avons ici au Congo, on a ça partout, même ici à Ituri, il y a des espaces où si on se mettait à cultiver, on peut largement produire et gagner sa vie à travers l'agriculture parce qu'on a des terres. Mais à la question de savoir quelles sont les mesures qu'on doit utiliser pour protéger les terres arables en RDC, il faut pas passer par les dos de la cuillère. Premièrement, d'abord, il faut la mise en place d'une réglementation foncière efficace. Parce que avec la mise en place de ces réglementations foncières-là, ça permettra à ce qu'on puisse établir des lois, mais aussi des politiques foncières claires pour protéger les terres arables. Il faut d'abord aussi le plan de droit, on doit avoir des lois quant à ça. Il y en a, mais chez nous, le problème, c'est le problème de l'applicabilité de ces de la loi, de l'application de la loi qui pose ce réel problème. Deuxièmement aussi, il faut qu'il y ait la sensibilisation, mais aussi la formation des agriculteurs. On doit former et informer les agriculteurs aux bonnes pratiques agricoles, notamment par exemple la gestion durable des terres. C'est très important. Ces gens-là, quelque part, là, ils ne sont pas informés. On doit sensibiliser, mais aussi la formation doit totalement suivre ces agriculteurs-là qui sont quelque part là, ignorants, quant à ça, ils ne sont pas informés. Quant à ça, on doit les former, surtout les informer sur les bonnes pratiques agricoles qui peut aboutir à la bonne gestion durable des terres arables.
D'accord.
Et un autre point aussi qui peut être comme moyen de prévention, de protéger les terres arables, mais aussi c'est le renforcement des systèmes de surveillance et de contrôle. On doit mettre des mécanismes de suivi et d'évaluation pour détecter surtout les activités illégales qui se font dans notre pays. On doit renforcer les systèmes là, on doit renforcer les systèmes de contrôle, mais aussi de vigilance quant à ça, pour détecter les activités, les gens qui pratiquent les activités illégales telles que dans la déforestation, dans l'exploitation minière. Dans ces gens-là, on doit les identifier pour étouffer ces problèmes quant à ça. Comme j'ai deux questions à l'inviter, la première question est de savoir comment impliquer les communautés locales et autochtones dans la gestion durable des terres arables en RDC. Comment on peut impliquer les communautés locales, autochtones surtout, dans la gestion durable des terres arables en RDC. C'est pas ça l'unique préoccupation que j'avais. Bonne suite d'état, monsieur Jody.
Bien, merci beaucoup pour cette question. Maître Eric, vous êtes avocat au barreau du Congo central. Bonjour.
Bonjour Monsieur Jolie, bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi.
Bien, nous avons suivi cette révélation faite par l'ancien président, vice-président américain Al Gore dans un ouvrage intitulé Le Futur. Et il affirme que la RDC compte environ 120 millions de terres arables, dont la moitié serait déjà bradée, attribuée aux entreprises, aux multinationales qui vont les exploiter. Voilà, comme chez eux, les terres posent de plus en plus ne produisent plus comme avant. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette révélation?
Oui, merci Monsieur Joly. Je commence par inhérer la réflexion ou la réaction de Monsieur Simplex Malembe. Vous savez, beaucoup de gens écrivent sur la RDC, beaucoup de gens font des révélations sur la RDC, mais à l'interne, nous n'avons pas les éléments objectifs d'appréciation de toutes ces révélations. Et il nous est pratiquement difficile d'émettre un point de vue. Et donc, nous accueillons ces révélations, quoique documentées dans un ouvrage. Nous les accueillons avec réserve pour ne pas brûler la maison et faire nôtre des révélations dont nous n'avons pas pu avoir les éléments pouvant aboutir à cette conclusion. Mais une chose est vraie, c'est que nous remarquons que les communautés locales ont un sérieux problème en ce qui concerne les terres arables. Ils ont un sérieux problème. Sous réserve des proportions avancées dans l'ouvrage ou les révélations-là, il y a quand même un malaise, en ce sens que beaucoup de terres supposées être arables sont aujourd'hui attribuées à des concessionnaires, des grands concessionnaires comme on les appelle dans les jargons, dans les langages courants. Ce qui fait que par rapport à la pression démographique que subit ces communautés locales, il y a un souci. Et donc, le vœu est que toutes ces terres arables soient protégées pour la survie des populations et même de l'économie nationale. Parce que, comme vous le savez, lors du forum agro-business d'IRC, organisé du 4 au 5 octobre 2023 par le gouvernement de la République démocratique du Congo, la thématique centrale placée mise en exergue était très intéressante, à savoir, il est temps de la revanche du sol sur le sous-sol. Donc, le gouvernement de la République faisait déjà état d'une revanche du sol, c'est-à-dire de l'agriculture, mmh, sur le sous-sol, c'est-à-dire les minéraux. Et donc, si on peut lier l'acte à la parole, on peut considérer que cette revanche n'est pas qu'un vœu pieux. Il est effectivement temps que le sol prenne la revanche sur le sous-sol et qu'on s'intéresse beaucoup plus à l'agriculture pour booster les développements socio-économiques de notre pays. Et pour s'intéresser à l'agriculture et booster les développements socio-économiques du pays, et effectivement, il faut des terres arables, il faut les trouver, il faut les exploiter, il faut en assurer la gestion, parce qu'une terre objet de conflit ne peut pas répondre à bon escient à la nécessité d'un développement économique et d'une production optimale.
Et maître, passant, un instant, on va accueillir un auditeur pour ne pas les faire traîner. Godet, qui nous appelle depuis la ville d'Ekikwit. Monsieur Godet, bonjour.
C'est le journaliste. Bonjour aux deux invités qui se trouvent dans la radio internationale.
Quelle est votre préoccupation?
Vraiment, les mathématiques sont très, très importantes. Vraiment, ici, dans notre pays, c'est exactement depuis les 50%, c'est vrai. Puisqu'à l'époque de Javal, sur le Kassai oriental, la rivière Lumbembe était occupée par M. Javal. Pendant longtemps, jusqu'alors, on ne travaillait même pas les diamants, là, même les champs. Précisément à Inongo, des bois, des grilles, ils s'en allaient avec ça en Europe, sans même compter même aux autochtones, même une petite rémunération à donner aux autochtones. Non. Alors, j'ai des préoccupations à poser à l'invité, puisque moi je suis vraiment au courant de ça. Dans notre secteur Imbongo, territoire de Boulungu, un expatrié belge qui était venu à l'époque 1945 à ce clan-là. Est-ce que je voulais savoir, à l'époque coloniale, le maître bien posé, est-ce que on peut vendre la forêt à l'époque coloniale? Puisque le tribunal de Boulungu, même les juges ont, avec une grande difficulté, on a fait quitter cet expatrié belge. C'est-à-dire, on le quitte, on ne voit pas le jugement fondé. Est-ce qu'un expatrié, à l'époque coloniale, on vendait des forêts et l'invité aurait dû me répondre? Deuxième production. Est-ce que les forêts ici, que Belzette, à l'époque, qui avait laissé, aujourd'hui, la Belzette est partie. Est-ce que les forêts peuvent être récupérées par les autochtones, les chefs d'État? Voilà mon. Nous avons beaucoup de difficultés. Les juges de la province de Filou ne s'en sortent pas. Les frontières sont vraiment exorbitantes. Les juges, c'est temps de nous répondre clairement. Aux juges, la province de Filou puisse profiter de la réponse aussi qui va donner par les preuves. Le maître qui se trouve dans notre studio.
Bien, dommage, on n'a pas. C'était entrecoupé, on n'a pas pu saisir exactement votre question. Merci. Alors, maître Eric, vous, qu'est-ce que vous pouvez dire à monsieur Godet de Kikwit.
Monsieur Godet de Kikwit, que je salue à l'occasion, en dépit de la communication entrecoupée, j'ai cru comprendre qu'il s'est plaint de certains conflits fonciers dans le territoire de Boulungu et que la justice en est saisie, mais qu'il n'y a pas de solution idoine et qu'il voudrait que nous puissions répondre à certaines questions.
Et les espaces qui sont confiés aux étrangers, voilà.
Oui, oui. Bon, tant qu'il s'agit d'une situation dont est saisie des juridictions, comme il l'a dit lui-même, M. Godet, il n'est pas aisé pour moi, en ma qualité d'avocat, de pouvoir donner une réponse précise et claire sans avoir les éléments factuels de la situation telle qu'elle s'est présente exactement. Mais en ce qui concerne la vente des terres à l'époque coloniale et tout, on sait que en son temps-là, il n'y avait pas encore la loi foncière dans sa version actuelle, et qu'il s'est passé des choses. Les colons, les expatriés, en bref, avaient eu à acquérir des terres, des grandes superficies des terres auprès des autochtones, et à des valeurs vraiment dérisoires, c'était pratiquement trop léonin. Et nous savons que à un moment il y a eu zaïrianisation, il y a eu tout ce qu'on a vécu là, la reprise de certains biens des expatriés, c'était en réponse à certains constats faits à l'époque par les autorités étatiques. Et donc le malaise, comme nous l'avons dit, il est là, il est profond, parce que dans plusieurs coins de la République, on assiste à ce genre de conflits entre les ayants droit de certains colons. Il y en a quand même en RDC, quelqu'un qui s'est dit fils d'un monsieur Van Tel, d'un sujet par exemple belge, je dis n'importe quoi, un sujet belge, et qui estime devoir assurer la continuité d'une concession agricole dont son père était bénéficiaire jadis. Et mal exploité, mal entretenu, finalement les communautés locales se disent « bon, nous reprenons notre terre parce qu'elle est nôtre ». Ce sont là justement ces conflits. Mais moi je pense que, comme l'a dit Monsieur Simplex, la solution à tous ces conflits, à toutes ces facettes de conflits, réside dans l'harmonisation des textes juridiques sur la gestion des sols. L'harmonisation. Présentement, il y a le cadastre foncier, le cadastre minier, les cadastres forestiers, les cadastres agricoles. Qui fait quoi et à quelle proportion? Tout cela doit être harmonisé en vue d'éviter la superposition. Il est possible, et même d'actualité aujourd'hui, de retrouver quelqu'un avec un contrat minier sur un terrain et de retrouver un autre avec un contrat foncier sur le même terrain. Et donc, ce malaise-là ne peut être résolu que par un état des lieux en matière foncière, en matière des terres, du sol et des sous-sols. Et cet état des lieux, je crois qu'il a déjà eu lieu. C'est même la raison pour laquelle, sous réserve d'un complément d'information par M. Simplex, qui est expert en cette matière-là, c'est même la raison pour laquelle il y a eu un projet de loi devant remettre de l'ordre dans les secteurs. Donc, si les textes de loi étaient scrupuleusement respectés sur l'attribution des terres à travers toutes les étapes et à travers les compétences respectives de chacune des autorités impliquées dans la gestion des terres, je voulais dire, si c'est du côté minier ou du côté foncier, c'est-à-dire les terres arables, si tout cela était respecté, on assisterait à moins de conflits. Mais il y a une certaine cacophonie, il y a aussi parfois, comment dirais-je, une manque de collaboration entre les différentes autorités, et un manque de transparence entre les différentes autorités devant concourir à l'attribution des terres. Ça crée des confusions, ça crée des conflits, et c'est la population qui en pâtit.
Bien, on va accueillir Maître Cyril Ekwe de Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, je dis bonjour à nos invités, bonjour à l'estimé confrère Maître Boulou.
Bien, nous parlons de la, préservation des terres cultivables congolaises. Et d'après l'ouvrage intitulé par l'ex-président, le vice-président américain, près de 50% des terres arables congolaises seraient déjà bradées. Qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus?
Oui, merci beaucoup. Je crois que la préservation des terres arables en RDC s'avérait très importante. Comment on peut y parvenir, monsieur le journaliste? Vous savez, le secteur foncier et le secteur de l'aménagement du territoire sont les deux clés de voûte pour la préservation des terres arables en RDC. Il faut une réglementation élaborée par les deux secteurs qui permettra l'exploitation de ces terres, qui sera une opportunité d'ouverture de la relance économique. Monsieur Jeudi, vous allez remarquer que l'accès au foncier est inégal entre des zones à forte et à faible densité. Dans le premier, les populations n'ont plus de terres disponibles pour
cultiver,
pratiquement absorber la croissance démographique et elle entame de fortes migrations. Partout, l'accès au foncier des communautés est menacé par les acquisitions incontrôlées. Ça, vous allez remarquer, notamment urbaines, ne tenant pas compte des jeux en terre des communautés. Le deux systèmes de gestion du foncier officiel et coutumier, non coordonnés par l'aménagement du territoire, favorisent des attributions incontrôlées des terres, y compris dans les zones forestières précieuses pour la biodiversité et la préservation du cours couvert forestier, monsieur Jeudi. Contribuant ainsi à la déforestation, à l'accaparement et à la thésaurisation des terres. Vous allez remarquer également l'absence d'entretien des routes entraîne une mauvaise réputation des populations et augmente la pression foncière dans les zones proches des marchés et bien desservies. On doit également signaler les difficultés d'accès foncier. Nous avons un problème des codes agricoles et fonciers pour les différents opérateurs du secteur agricole comme l'une des causes majeures de sous-investissement dans ce secteur. Monsieur Jeudi, le moyen le plus facile de cette préservation, c'est la mise en valeur de ces terres. Il faut occuper ces terres par la mise en place d'une politique de l'agriculture durable. C'est la meilleure banque en RDC. La meilleure banque, c'est la terre pour nous en RDC. C'est pas la FMI, c'est pas la Banque mondiale ou le Fonds monétaire international. Toutes les banques en RDC sont étrangères. Et si nous mettons en place l'exploitation des notaires arabes, je crois que la RDC pourrait avoir sa propre banque qui est la terre. Voilà.
Bien, merci beaucoup, maître. Monsieur Simplex Malembe, votre réaction?
Deux choses. Pour la première question de notre ami qui a dit, qui a parlé de comment on impliquerait les comités locaux dans la gestion durable des terres arabes. En principe, nous comme experts en cette matière-là, nous avons mis, la RDC a mis la charrue avant le bœuf, comme disent les gens. En principe, on ne peut pas faire un aménagement du territoire sans impliquer les communautés locales. C'est ça le principe de base. Partout où nous avons mené des processus de réforme, ce sont les communautés locales qui pilotent même ces processus-là. Mais généralement, chez nous, en RDC, le pilotage se fait de haut en bas. Ce qui fait que le pilotage se fait dans des bureaux, dans des cercles bien connus, et ça parachute sur terrain. Cela crée un dysfonctionnement terrible au niveau de la mise en œuvre des différentes lois. Pour l'instant, si nous voulons que nous puissions aménager et protéger nos terres, c'est de dire, connaissons d'abord ces terres-là, là où elles sont. Deuxième élément, les lois qui sont à chantier depuis 2011, la loi agricole avec ses mesures d'application sur le foncier, jusqu'aujourd'hui, on n'arrive pas à les faire. La loi foncière, le processus traîne. On dirait que vu la complexité des intérêts et des enjeux qui sont autour du foncier, toutes les parties prenantes préfèrent le chaos dans lequel nous sommes en train de nager aujourd'hui. Nous pensons que le livre du président, c'est quand même une grande personnalité qui ne peut pas se permettre d'écrire des choses à partir desquelles il n'a pas réellement des informations précises.
Oui.
Le problème que nous avons en RDC, c'est que tout s'est fait en catimini. Dans la logique de la loi actuelle, même si elle est mauvaise, il est prévu ce qu'on appelle les enquêtes de vacances de terre. Mais vous savez comment les choses se passent.
Monsieur
Peut-être
Simplex,
que l'auteur du livre sait déjà que les terres ont déjà été vendues sans qu'on informe les communautés locales. Ça, c'est possible.
Voilà.
Mais ça va créer des problèmes de mise en œuvre. Et donc, nous devons, nous, comme Congolais, prendre nos responsabilités et dire la terre, les terres, d'ailleurs, je dis mieux, la terre de nos ancêtres n'est pas à vendre. La RDC n'est pas à vendre. Nous rentrons dans une phase où le foncier sera, si ce n'est pas déjà le cas, sera la première cause de la guerre mondiale que nous sommes en train. C'est vers là que nous allons. Et les pays qui disposent de terres non encore mises en valeur seront les victimes de leur propre... Je ne vais pas utiliser un terme qui risque de choquer les auditeurs, mais nous risquons d'être victimes de notre...
De notre quoi ?
Plaisanterie, croyant que nous sommes déjà... Nous sommes riches et nous avons 120 millions d'hectares, alors que ces hectares-là, nous ne savons pas où ils sont. Et lorsque nous les aurons identifiés, ils ne nous appartiendront plus jamais. Donc vous voyez le dilemme dans lequel nous sommes.
Monsieur
donc,
Simplex,
peut-être le moment.
Monsieur Simplex, mais il semble que c'est toute la terre du Congo est presque, on peut dire qu'elle est cultivable. On peut cultiver partout et avoir des bonnes récoltes.
Bon, ce qui est vrai, même le désert est devenu cultivable. Et nous qui sommes sur l'équateur, nous avons un avantage comparatif à terme de capacité de production de nos terres. Et donc, seulement qu'à ce titre-là, nous sommes la convoitise de diverses sociétés, de divers pays. Vous pensez que la guerre de l'Est, même si les gens ne le disent pas assez, la guerre de l'Est a aussi un soubassement foncier. Toutes les crises que nous observons à gauche et à droite, ce sont des manifestations de conflits fonciers qui ne disent pas leur nom. Et donc, à mon avis, on devrait interpeller le gouvernement à partir de ce livre-là, à partir de la situation actuelle que vit notre pays, pour organiser le foncier congolais, parce qu'il est aussi à la base des crises et des guerres que nous traversons ces derniers temps. Il est à craindre que si le désordre ici continue, que des gens soient en train de s'approprier des terres dans les parties qui sont occupées maintenant. Et donc, si nous ne faisons pas attention, en tout cas, moi je considère que déjà ces livres-là devraient nous aider pour dire est-ce que ce n'est pas le moment d'organiser notre foncier de manière à ce qu'il serve pour nous unir et non pas pour nous créer des conflits.
Monsieur Simplex,
nous servent pour nous enrichir et non pas pour nous appauvrir, comme dit le processus de la CONAREF. Pourquoi les autorités ne veulent pas adopter une politique et la loi foncière que depuis 2011? C'est bizarre que nous ne soyons vraiment dans une guerre qui ne dit pas son nom.
Monsieur Simplex,
donc, moi, je crois
Monsieur
que
Simplex,
oui.
Vous avez suivi tout à l'heure Maître Cyril Ekwe à proposer ceci pour préserver nos terres arables, il faut les mettre en valeur. Il n'y a que 10% des terres arables aujourd'hui qui sont utilisées. Alors, qu'on intensifie l'agriculture à travers le pays, ainsi on pourra préserver nos terres, selon Maître Cyril Ekwe.
Oui, mais là aussi, cher journaliste, il y a une autre problématique qu'il faut analyser. L'élite politique, économique, militaire, et je ne sais quoi faire, intellectuel, l'élite de la RDC s'est accaparée des terres pour les thésauriser. J'ai toujours pris l'exemple des grandes villes du pays. Lorsque vous prenez Kinshasa, par exemple, vous allez sur la route Bandundu, c'est pour ceux qui connaissent. Il y a des pancartes qui sont sur toute la route, pas concession telle, concession telle, concession telle. Mais ils n'ont même pas mis une souris là-dedans. Vous prenez la route Congo Central. Toutes ces terres-là sont déjà payées par des amis, des gens.
Mais Maître Eric a parlé tout à l'heure de la thésaurisation des terres. Il y a des gens qui ont des grandes étendues, des hectares, mais qui ne font rien dessus.
Qui ne font rien dessus, effectivement. Tout ça crée un blocage à l'interne qui fait que ces gens-là préfèrent les conserver pour des besoins de spéculation plus tard. Et donc, la loi doit mettre de l'ordre dans ces éléments-là, de telle sorte qu'on libère ces terres-là avant de parler des autres terres qui peuvent, j'insiste souvent là-dessus, nous devons garder les terres pour les générations futures. parce qu'à l'allure où vont les choses, le pays ne va pas appartenir à deux ou trois messieurs seulement, ma papa. Et donc, si nous commençons à dire les concessions, même si vous allez dans toutes les villes du pays, maintenant toutes les périphéries sont déjà accaparées par deux ou trois messieurs. Alors, ils ne font rien dessus. Et donc, il y a une nécessité de faire ce qu'on appelle une revue légale. Faire un état des lieux des occupations foncières, qui occupe quoi, il utilise combien, pour comment il a acquis ça et il a acquis ça. Cela nous permettrait de dégager un état des lieux pour savoir quels sont les espaces réellement occupés à bonne et due forme, comment ils sont utilisés. Et cela nous permettrait de créer des réserves foncières. Vous savez, les États-Unis aujourd'hui, ce sont les pays qui exploitent les minéraux, les ressources minières des autres pays, pendant qu'ils sauvegardent les leurs. Nous aussi, on devait nous mettre dans cette logique-là. Les gens viennent exploiter chez nous et ils sauvegardent les choses. Plus tard, lorsque le moment viendra, lorsque nous n'aurons plus rien, il faut commencer à exploiter chez eux et nous serons des demandeurs à ce moment-là. Donc, les autorités, et là, c'est une occasion que vous m'offrez ici, nous interpellons la maman ministre des Affaires foncières qui vient de prendre les fonctions bientôt, d'accélérer l'adoption de la politique foncière qui va nous permettre, un, de faire la revue légale, trois, de faire la cartographie des terres arables, quatre, de mettre en place une politique opérationnelle d'exploitation durable de ces terres-là. Voilà ce que je peux dire pour l'instant par rapport aux interventions de mes collègues qui sont avec nous dans cette émission.
Bien, comment préserver les terres arables et congolaises? On en parle aujourd'hui dans Okapi Service. Pour participer à cette émission, composez le 099-706-9941. 099-706-9941. Écrivez-nous également à service@radiookapi.net. Okapi. Comment préserver les terres arables, les terres cultivables de la RDC? Maître Eric Vouvou, vous êtes avocat au barreau du Congo central. Votre réaction par rapport à ce que votre confrère a dit tout à l'heure, pour bien préserver nos terres, il faut clairement les mettre en valeur. Il faut cultiver, il faut intensifier, il faut pratiquer une agriculture intense. Votre réaction?
Je suis parfaitement d'accord avec mon confrère. Parce qu'en fait, une terre suffisamment exploitée, mise en valeur, ne fera plus l'objet de la convoitise, parce qu'elle est déjà occupée et mise en valeur. Ceux qui convoitent les terres, c'est au fin de les occuper, de les thésauriser, ou de les mettre en valeur, de les exploiter à des fins économiques. Donc moi, je crois qu'à ce niveau-là, les pouvoirs publics devront booster ces secteurs-là, en mettant en place des mécanismes permettant aux agriculteurs et aux communautés locales de faire une agriculture extensive et non simplement domestique sur les terres existantes, et aussi à leur niveau, eux, le pouvoir public, de mettre en place des mécanismes pouvant leur permettre de permettre au gouvernement de la République d'exploiter ces terres-là, de les exploiter et d'en tirer les dividendes en lieu place de les laisser inexploitées, sujettes à convoitise, et de les concéder à des tiers ou des expatriés qui n'en font rien, alors qu'ils acquériraient des grandes étendues de terres. Pour les cas de ceux qui thésaurisent les terres, moi je pense que en attendant l'adoption de la nouvelle version de la loi foncière, celle existante permet la reprise. Donc, lorsque les grands concessionnaires capitalise les terres, il les thésaurise, il ne les exploite pas, il ne les met pas en valeur, il les garde afin de pouvoir en augmenter la valeur vénale et de pouvoir en tirer profit en temps opportun selon eux. L'État doit exercer le droit de la reprise qui lui est reconnu, qui s'est reconnu, reprendre ses terres et les remettre dans le domaine de l'État. Pour pouvoir justement les mettre en valeur, comme l'a dit mon confrère là. Et je crois que c'est une manière de pouvoir sauver ces terres de la prédation. Parce que lorsqu'elles seraient inexploitées, Naturellement, c'est un appât. Ça sera un appât pour tous ceux qui ont le désir d'exploiter. Mmh. Et une autre manière de pouvoir garantir la bonne gestion des terres, c'est de pouvoir sévir avec les dispositions légales qui existent. Vous savez, la loi foncière prévoit comme sanction la nullité de tous les contrats qui ont été conclus en violation de la loi. Et les communautés locales qui sont préjudiciées doivent pouvoir être sensibilisées en vue de ne pas avoir leur langue dans la poche, d'attaquer certains contrats à nullité pour avoir violé les dispositions légales en la matière, notamment les enquêtes des vacances. Parce que maintenant, on assiste à des octrois des concessions sans enquête des vacances préalables, au mépris des droits des communautés locales. Eh bien, ces contrats sont annulables parce que ayant violé les dispositions relatives à la procédure d'acquisition. Et au niveau des pouvoirs publics, j'aime revenir sur ça, il y a lieu de pouvoir sanctionner certaines autorités administratives, foncières, impliquées dans la gestion, la distribution des terres, qui se compromettent. Des sanctions administratives existent, elles sont prévues. Des sanctions pénales peuvent être prévues, sont prévues également, peuvent être appliquées. Donc je crois que lorsque l'État prendra le bâton de commandement en main pour sévir ceux qui doivent être sévis, pour s'être compromis dans la gestion des terres, il y aura un amendement qui pourra être espéré dans le chef de ceux qui gèrent les terres et qui donne l'occasion aux prédateurs d'y avoir accès de manière totalement à côté des textes ou des procédures établies.
Maître Eric, on parle de plus en plus de la revanche du sol sur le sous-sol. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça ne reste pas un simple slogan?
Exactement. Comme je l'ai dit en amont, c'était une thématique centrale d'ailleurs du forum d'IRC Agro-Business. Tenu à l'hôtel Pullman du 4 au 5 octobre 2023. Mais pour que ça ne reste pas qu'un simple vœu pieux, qu'un simple slogan, il faut justement que ces terres arables soient mises en valeur à travers une agriculture extensive, durable, et que les produits de cette agriculture puissent être réversés dans le circuit économique du pays pour nous permettre d'espérer un développement. Parce que aujourd'hui, nous importons le riz, nous importons les oignons, nous importons, bref, tout ce que nous consommons qui sort de la terre est presque importé. Alors que nous pouvions mettre en place une agriculture suffisamment extensive et faire de la RDC un grand producteur de riz, un grand producteur d'oignons, un grand producteur de ceci, de cela, pour ne citer que certains produits. Et lorsque la RDC arriverait à être ces géants dans la production de certains produits agricoles sur ses propres terres, je pense que les économistes ne les contrediraient pas. Ça aurait nécessairement des retombées positives sur l'économie nationale. Donc, pour que ça ne reste pas qu'un vœu pieux, qu'un slogan, il faut qu'effectivement ces terres arables que nous avons presque partout, nos terres, il est difficile de pouvoir y germer quelque chose qui échoue. Il est difficile. Il faut qu'elles soient mises en valeur, exploitées à bon escient et dans une vision de pouvoir relever l'économie du pays. Et en excluant évidemment certaines antivaleurs que nous avons toujours déplorées, parce que je peux insinuer, en donnant un exemple dans mon territoire d'origine, une grande plateforme agro-industrielle avait été construite, mais qui est un éléphant au pied d'argile. Il est inexploité en ce moment, et faute d'intrants agricoles, une grande plateforme agro-industrielle, mais qui ne sera pas fonctionnée, en quoi les experts, parce que le sol n'offre pas les produits. Or, pour que le sol offre les produits, il faut que l'agriculture puisse être remise sur le chemin, afin de pouvoir faire fonctionner toutes ces usines-là. Et ça, ce n'était qu'un exemple. Pourquoi certaines plateformes agro-industrielles peinent à fonctionner? On sait qu'il y a des antivaleurs déplorées en amont lors de la gestion des investissements quant à ceux. Mmh. Il ne faudrait pas que la République investisse dans l'agriculture à travers de grands projets et que cela passe dans les poches des individus pour des intérêts mesquins et égoïstes.
C'est le cas de Bukangalonzo. C'est le cas, bon, par exemple, de Bukamelo.
Je crois que vous l'avez dit.
D'accord, on va accueillir Justin Koulou depuis Fungurume. Comment préserver les terres arables congolaises? Justin, bonjour.
Bonjour, monsieur Jody, et je dis bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi.
Quelle est votre préoccupation?
Ça va. J'ai suivi avec beaucoup d'attention nos deux intervenants sur cette émission. Ils nous affrontent à la loi Bakajika, qui stipule que le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. C'est pourquoi l'État se tape la poitrine de tout faire pour nous saboter, nous-mêmes les Congolais, à nous arracher nos terres. Il y a, par rapport aux assauts sur les terres arables, quelqu'un qui a déjà compris en avance l'importance de l'agriculture, il s'improvise en brousse, je ne sais pas, avec les cadastres agricoles ou quoi. Il va prendre des espaces qui, même le champ des habitants tombe à l'intérieur, qu'il va déloger avec moindre frais, qui ne le permettra pas même d'aller acheter les sols à cultiver ailleurs. Ça aussi, avec nos deux invités, si nous nous retrouvons dans ces cas, où allons-nous se plaindre? Qu'est-ce qu'il va conseiller à la population de faire? Troisièmement, les conditions d'acquisition des terres arables pour les Congolais eux-mêmes, il doit s'adresser où soit il va s'improviser avec les chefs coutumiers ou soit les chefs de terre, on lui donne les vastes étendues. Nous tournons en rond, monsieur Jody, or que la solution est la plus simple. Nous pouvons copier l'exemple de la Belgique à l'agriculture du coton. On imposait à chaque Congolais d'avoir les hectares de coton. On va lui subvenir avec tout le matériel pour qu'il puisse atteindre le maximum de la production. Et si on te trouve sans chien, on devrait soumettre cet individu à des tortures ou soit à des punitions. Actuellement, comme la torture n'est pas permise. J'ai discuté avec papa David dans le marché de Louboudi. Il me disait que nous tous, nous avons besoin de cultiver. Et l'agriculture permet aux hommes à être des sédentaires, puisque tu vas cultiver les substrats que tu dois contrôler pendant 5 ans, 3 ans, tu ne vas pas te taper la poitrine de celui qui est. Tous ces gens qui font des vagabondages dans des centres-villes inutilement, on devrait les envoyer au champ, comme le font Kanyamaka. Si certains sont en train de les diaboliser, quand même, Ils ne sont pas à la source des informations. Nous qui avons eu la chance d'avoir les sources, les informations à la source, nous encourageons ça. Qu'on évacue tout ce, qu'on dégorge les villes pour les donner. L'État a beaucoup d'argent. Ça ne demande pas beaucoup monter les usines de fabrication des intrants avec le ministère de l'Industrie, s'ils nous suivent à ce moment.
D'accord, merci beaucoup. Oui. Merci Justin, on a compris. Monsieur Simplex, qu'est-ce que vous pouvez dire à Justin par rapport à ses préoccupations?
Les procédures à terme d'acquisition et d'accès de contrôle des terres arables sont connues en RDC. Nous avons deux possibilités, mais malheureusement l'une est plus ou moins négligée. Alors qu'elle est la plus populaire. C'est la procédure coutumière. Il faut s'adresser aux chefs terriens. Mais malheureusement, la loi que nous utilisons actuellement, ne reconnaît pas dans les montages institutionnels le pouvoir du chef coutumier, même si par ailleurs, la loi sur le statut des autorités traditionnelles reconnaît à un certain niveau le pouvoir au chef coutumier de gérer le foncier local. Donc, nous devons apprendre à nous défendre, nous comme population paysanne. Moi, je connais des provinces où les gens ont acquis de grandes concessions, mais suite à une résistance, les concessionnaires ne savent pas atteindre leur terrain. Est-ce que c'est comme ça qu'on doit vivre? Non, pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a une nécessité de réconcilier ou de concilier ce que nous appelons le légal et le légitime, la légitimité à la légalité, c'est-à-dire comment mettre en place des mécanismes qui reconnaissent en même temps le pouvoir des communautés locales, représentées par leur propre chef, les bons, les chefs coutumiers, et l'administration foncière. Parce qu'il faut aussi parfois le dire, l'administration foncière telle qu'elle a été montée pour arracher les terres des communautés locales sans leurs opinions, C'est pourquoi la persistance des chefs coutumiers des communautés locales, on ne va pas la finir aujourd'hui tant qu'elle se réclamera pour dire ce sont les terres de nos ancêtres. Parce qu'il faut savoir dire que l'État, dans sa configuration actuelle, est arrivé après, elle a retrouvé les communautés locales sur leurs terres. Et donc, on ne peut pas se réveiller aujourd'hui en disant ça devient les terres de l'État alors que les communautés sont là-dessus. Donc, moi, je pense que il est grand temps, je reviens là-dessus vraiment, comme c'est une occasion, l'émission tend à sa fin, il est grand temps que la RDC puisse prendre ses responsabilités vis-à-vis de son foncier. Les 80 000 hectares, dont 2 millions d'hectares dont on parle, tout ça sont des théories. Nous devons savoir où ils sont, comment ils sont gérés, comment nous allons nous projeter dans l'avenir, de telle sorte que nous puissions les protéger pour l'intérêt supérieur d'abord des Congolais et ensuite partager avec l'humanité comme le monde est devenu un. Mais j'insiste, d'abord les Congolais. Et les terres doivent appartenir à ceux-là qui réellement les utilisent. Et non pas à des gens qui sont à Kinshasa, à Lubumbashi, à je ne sais pas où, en Europe, et qui thésaurisent nos terres, alors que nos communautés locales sont en train de souffrir pour attraper même un art, alors qu'il y a des terres qui les entourent. Donc voilà ce que je peux dire pour l'instant, en attendant que nous puissions développer de manière spécifique les cas du Congo avec les pays voisins, parce que nous sommes en plus l'objet de convoitises, non seulement des multinationales, mais aussi des pays voisins qui nous trouvent assez pas normal pour garder sauvagement des espaces qu'ils pouvaient exploiter de leur manière. Voilà ce que je peux dire pour les chers journalistes.
Bien, M. Simplex Malembe, nous disons merci. Je rappelle que vous êtes expert en gestion des conflits fonciers. Et excellente journée et à la prochaine.
Merci beaucoup, merci à nos auditeurs.
Maître Eric Vouvou, je rappelle que vous êtes avocat au barreau du Congo central. Nous parlons de la préservation des terres arables congolaises. Alors, pour terminer, on retient que la mise en place d'une réglementation foncière efficace et la loi sur l'aménagement du territoire sont deux piliers importants pour préserver nos terres arables.
Exactement, ce sont les deux piliers principaux pour préserver nos terres arables, outre un facteur très important, non de moindre, l'exploitation de ces terres à grande échelle par les communautés qui peuvent obtenir des subventions du gouvernement de la République et l'exploitation de ces terres par le gouvernement de la République à travers des projets qui peuvent permettre de booster l'économie et il faut saisir là où il faut en cas de dérapage ou de non prise en compte des règles relatives à l'attribution des terres ou lorsqu'il y a des dérapages constatés dans l'exécution de certains projets d'intérêt communautaire.
Bien, alors une autre préoccupation est de savoir, M. Simplex a parlé au début de cette émission qu'il est important de faire une cartographie des nos terres arables. Est-ce qu'on peut dire que c'est important à ce stade ou pas?
Exactement. On ne peut pas planifier une exploitation à grande échelle des terres arables sans pouvoir les situer et sans des études préalables tendant à démontrer par les experts en agriculture, par exemple, telle contrée avec sa terre qui a telle nature, telle configuration peut être exploitable à travers quelle culture. Donc il faut effectivement une cartographie de ces terres faite par des experts qui cibleraient l'exploitation en rapport avec la capacité de production par rapport aux cultures envisagées sur toutes ces terres-là.
Bien, que faut-il faire pour préserver les terres arables congolaises? Nous vous disons merci, maître Eric Vouvou. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau du Congo central. Merci d'avoir accepté notre invitation pour échanger autour de cette thématique. Tout est parti d'un ouvrage publié par vice-président américain Al Gore qui a affirmé que près de 50% des terres fertiles de la RDC seraient déjà attribuées aux étrangers. Merci d'avoir accepté de participer à cette émission et à la prochaine.
C'est moi qui vous remercie. Merci à tous les auditeurs pour leur attention soutenue.
Bien, tout à l'heure, dans la deuxième partie de l'émission, nous allons parler des maladies des volailles pendant la saison sèche. Pour participer, appelez-nous déjà au 099 706 99 41.